pense que c'est tout de même une symbolique qui renvoie à de l'humiliation, quoi. Parce que c'est quand même le signe, pour beaucoup, dans le monde arabe en particulier, d'un échec. C'est-à-dire, il y a eu Sykes-Picot, alors même qu'à l'époque, les Arabes souhaitaient avoir un grand royaume indépendant, comme leur avaient promis les Britanniques. Donc en fait, Sykes-Picot, c'est aussi l'humiliation et une trahison des Occidentaux, puisque ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ils ont promis des choses aux Arabes et finalement, ils ont conclu un accord avec les Français pour se partager le Moyen-Orient, sans oublier évidemment un point fondamental qui est lié quelque part aussi aux accords Sykes-Picot, d'une certaine manière. C'est évidemment la promesse Balfour en novembre 1917 qui promet au mouvement sioniste un foyer national juste en Palestine. Voilà, donc c'est vraiment globalement ça, à la fois humiliation, trahison et territoire imposé par des puissances extérieures.
Alors, 100 ans après leur signature, on présente les accords Sykes-Picot comme la racine même des maux actuels du Moyen-Orient. On pense évidemment aux guerres en Syrie, en Irak et ailleurs. Qu'en est-il réellement ?
Je crois que c'est allé évidemment assez vite en besogne, mais en même temps, il y a du vrai, quoi. Vous savez, sur un siècle, il y a eu tellement d'événements, de choses que on ne peut pas introduire une causalité directe, mais c'est vrai que si on résume les choses en deux idées, on peut comprendre que ça a du sens. La première idée, c'est que Sykes-Picot a créé par des puissances extérieures des États comme l'Irak, comme la Syrie, le Liban, la Jordanie. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, ces États, évidemment, n'avaient pas de nation. C'était des États sans nation. Et par conséquent, il fallait, pour que ça puisse tenir sur le long terme, une vraie politique de construction nationale. Et cette politique de construction nationale, elle n'a pas vraiment eu lieu. Puis la deuxième idée, c'est que à l'époque, il y avait des peuples, je ne dirais pas encore des nations, parce que la conscience nationale n'était pas vraiment très forte. Il y avait des peuples à qui on a dénié la possibilité d'avoir un État, c'est-à-dire les Palestiniens, évidemment. Et puis, bien entendu, les Kurdes. Les Kurdes, on leur a promis un État dans le traité de Sèvres en 1920, et ils n'ont rien eu pour d'autres raisons qui ne sont pas directement liées à Sykes-Picot. Mais on peut dire qu'il y a eu à la fois des États sans nation et des nations sans État. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est, par exemple, si on prend la deuxième idée, on voit bien que ces peuples, c'est pas des Palestiniens et des Kurdes, continuent à vouloir un État ou en tout cas des formes d'autonomie politique.
Aujourd'hui, on voit apparaître la tentation de signer un nouvel accord, un Sykes-Picot 2, entre guillemets. Est-ce que c'est là la solution pour résoudre les crises actuelles, selon vous ?
Ça voudrait dire que des puissances extérieures imposent aux peuples de la région des frontières. C'est absolument invraisemblable et impossible. Parce que justement, il faut inverser complètement les logiques qui étaient celles de l'époque coloniale de cette période des années 20. Donc aujourd'hui, si on veut penser les choses, il faut inverser complètement les logiques en disant que veulent les peuples. Et c'est aux peuples de décider. Et évidemment, c'est extrêmement compliqué parce que les peuples peuvent vouloir quelque chose sans pour autant pouvoir l'obtenir en raison de toute une série de facteurs qui tiennent notamment à la géopolitique de la région et à ce que souhaitent aussi les États extérieurs à leur désir de ces peuples. Concrètement, pour prendre un exemple, il est bien évident qu'il faudrait un État pour les Palestiniens. Donc là, ça ne serait pas du Sykes-Picot, ça serait faire en sorte qu'il y ait autodétermination des Palestiniens. On leur promet un État depuis fort longtemps, il faudrait qu'ils aient un État. Et si on prend les Kurdes, je préciserai les Kurdes d'Irak, qui à mon avis à 95-99% veulent un État dans le nord de l'Irak, on voit bien que ça serait une logique d'autodétermination de cette population, mais il y a évidemment des contradictions multiples. Les Turcs veulent faire un très mauvais œil, les Iraniens aussi, le reste des Irakiens à Bagdad, on apprécierait évidemment pas. Donc vous voyez, on est dans des complications majeures, des contradictions majeures, mais si on veut trouver des solutions aux crises profondes qui traversent aujourd'hui la région, il faut l'inverse, exactement l'inverse des logiques de Sykes-Picot. Il ne faut pas que ça soit imposé, mais au contraire, il faut que ça soit proposé et voulu par les peuples eux-mêmes. C'est au peuple de se déterminer.